Chapitre 11.
Oracle. Je n'aime pas ça. Vivacia parlait doucement, mais ses paroles vibrèrent en lui. À plat ventre sur le gaillard d'avant, Yémin se laissait caresser par le soleil matinal. Il avait rejeté sa couverture pendant la nuit lourde et humide, mais il avait la tête enveloppée de sa chemise. La chaleur nouvelle apaisait la douleur de son bras, mais l'éclat du soleil avait augmenté son mal de tête et l'avait réveillé. Et il s'y était résigné. Il devait bientôt se lever de toute façon. Comme il aurait aimé rester simplement allongé, sans bouger. Les autres semblaient depuis longtemps s'être remis des blessures récoltées à partage. Fallait-il qu'il soit une mauviette, qu'un ou deux coups de gourdin continuent à le tourmenter ? Il se refusait à penser qu'il se ressentait davantage de ses blessures parce qu'il avait tué l'homme qui les lui avait infligées. Ce n'était que sotte superstition. Il roula sur le dos. Même à travers la chemise et l'écran de ses paupières, la lumière dansait sur ses orbites. Parfois, il lui semblait distinguer des choses dans les dessins qu'elle formait. Il serra fort les paupières et des éclairs verts comme des serpents dardèrent leurs flèches. Il relâcha la tension, la couleur pâlit et prit la forme de soleil. Les jours d'été raccourcissaient maintenant, se dissipaient l'un après l'autre et les emportaient tous inexorablement vers l'automne. Il s'était passé tant de choses durant ces quelques mois. Quand ils avaient quitté Partage, 5 ou 6 constructions en bois, vieux ou neuf, avaient déjà surgi des cendres. Une tour en bois de la taille d'un mât montait déjà la garde, tandis qu'une autre en pierre s'arrondissait lentement autour de la première. Les gens là-bas appelaient Kenith le roi. C'était autant un terme affectueux qu'un titre. « Demandez au roi !» se disaient-ils les uns aux autres, et ils hochaient la tête en direction de l'homme de haute taille à la jambe de bois, un rouleau de papier toujours fourré sous le bras. Leur dernière vue de partage avait été le pavillon aux corbeaux qui flottait hardiment au sommet de la tour. La devise « Ici pour rester » était brodée sous l'œil déployé de l'oiseau et son bec rapace. Vivacia était ancrée de la proue à la poupe dans la baie trompeuse au large de l'île des autres. La marée montait autour d'eux. Kenith avait dit que c'était le seul mouillage sûr de l'île. Quand la marée serait haute, Yémin et lui quitteraient le navire pour ramer jusqu'au rivage. Ils venaient chercher l'oracle. Kenith avait insisté pour que Yémin parcourût la plage au trésor. Au loin, on distinguait la silhouette de la Marietta dans une nappe de brouillard flottant. Le navire se tiendrait à distance et les surveillerait en s'approchant seulement s'il advenait qu'ils aient besoin d'aide. Le temps singulier les avait tous troublés. Regarder au loin vers le large, c'était comme plonger les yeux dans un monde différent. La Marietta apparaissait et s'effaçait dans le brouillard comme un vaisseau fantôme. Ici, dans la baie, il n'était qu'un chaud soleil, sans un souffle d'air. Le silence se nichait au creux des oreilles de Yémin et le rendait somnolent.
« Je n'aime pas être ici, » répéta le navire.
Yémin soupira.
« Moi non plus. Il y a des gens qui trouvent les présages et les signes fascinants, mais moi j'en ai toujours eu peur. Au monastère, certains acolytes jouaient avec des cristaux et des graines. Ils les lançaient et déchiffraient leurs prédictions. Les prêtres le toléraient plus ou moins. Quelques-uns s'en amusaient en déclarant que nous saurions à quoi nous en tenir en grandissant. L'un d'eux disait que nous ferions mieux de jouer avec des couteaux. Mon instinct me poussait à être d'accord avec lui.
Nous sommes tous à l'orée de l'avenir. » Pourquoi se risquer dans le précipice?
Je crois qu'il y a de véritables oracles, qui peuvent scruter l'avenir, voir le chemin qu'on est destiné à suivre. Mais je pense aussi qu'il est dangereux de...
« Pas ça !»
dit sèchement la vive nef.
« Je ne sais rien de cela. Je me souviens de cet endroit. »
Une note de désespoir perça dans sa voix.
« Je me souviens de cet endroit, mais je sais que je ne suis jamais venu ici. » Yémin, ce souvenir t'appartient-il? Tu es déjà venu ici?
Yémin posa les mains à plat sur le pont et s'ouvrit à Vivacia. Il chercha à la réconforter.
Je ne suis jamais venu ici, mais Kenith, oui. Vous êtes devenu très proche. Peut-être sont ces souvenirs à lui qui se mêlent aux tiens. Le sang et mémoire Son sang m'imprègne et je connais le souvenir qu'il a d'ici. C'est un souvenir d'homme. Mais quand je suis venu la dernière fois, je glissais dans ses eaux rapides, lustrées. J'étais jeune et neuve. J'ai commencé ici, Yéma. J'ai commencé ici, non pas une, mais de nombreuses fois. Elle était troublée. Il se tendit vers elle et sentit les ombres fugaces de souvenirs si anciens qu'elle ne pouvait les saisir. Ils s'envolaient, vagues et élusifs, telle la lumière du soleil sous les paupières de Yéma. Comme elle, il les reconnaissait. Des ailes contre le soleil, des images de nage en eau profonde encadrées de lumière verte. C'étaient les images qui lui venaient dans son sommeil le plus profond, des formes fébriles, trop brillantes, trop dures pour souffrir la lumière du jour. Il tâcha de dissimuler son malaise. « Comment as-tu pu commencer plusieurs fois ?» lui demanda-t-il doucement. Elle repoussa de son visage ses cheveux noirs et brillants, se pressa les tempes comme pour chercher un soulagement.
« C'est un cercle qui tourne. Rien ne s'arrête, rien n'est perdu et tout tourne en spirale. Comme le fil sur la bobine et pourtant, c'est toujours le même fil. »
Elle frissonna tout à coup, dans le soleil, et serra les bras contre elle.
« Cet endroit ne nous vaut rien. »«
Nous ne resterons pas longtemps, le temps d'une marée. Ce sera... »« Yéma, il est temps de partir !»
La voix d'État l'interrompit. Il promena sa main sur le bois sorcier du pont.
« Tout ira bien !» lui affirma-t-il.
Il sauta vivement sur ses pieds et se hâta de rejoindre les autres en déroulant sa chemise de sa tête. Il l'enfila et la rentra dans ses culottes. Malgré ses réserves, il sentait son cœur battre plus vite à la perspective de mettre le pied sur l'île des autres.
Kenneth observait Yéma qui tirait l'aviron. On discernait les signes de souffrance. Un pincement qui blanchissait la commissure des lèvres, un voile de sueur sur son front. Mais le gamin ne pleurnichait pas.
Bien. Eta était assis sur le banc de nage près de Yéma et manœuvrait aussi l'aviron. Il nageait au même rythme que les deux autres nageurs. Kenneth était assis à l'avant, dos à la plage. Il accorda un regard à la vivacia. Il se fiait à elle, pour leur sécurité, autant qu'à l'homme auquel il avait laissé la responsabilité du navire. Yola était le nouveau second. Kenneth lui avait donné l'ordre de s'en rapporter à la sagesse du navire s'il advenait qu'il ne soit pas d'accord. L'ordre était étrange, mais il avait faim de ne pas remarquer l'expression interrogatrice du second. Avec le temps, si Yola faisait ses preuves, Kenneth lui accorderait peut-être sa confiance. Il avait regretté de laisser partir Brig, mais celui-ci avait mérité son propre navire. Le capitaine lui avait donné le vaisseau qu'ils étaient parvenus à relever du port de partage. Il y avait ajouté une somme d'argent rondelette avec l'ordre de se procurer du bois d'œuvre et d'embaucher des maçons pour la tour. Après quoi, Brig devait arraisonner quelques transports d'esclaves et repeupler la ville. Le plus gros de l'équipage de Brig était originaire de Partage. Kenneth avait choisi des hommes et des femmes du cru pour s'assurer que le navire ne serait pas tenté d'abandonner sa mission. Il hocha la tête pour lui-même, satisfait de la façon dont il s'y était pris. La seule inconnue demeurait le lien nouveau qui rattachait Sorcor à la ville. Alice était enceinte quand ils avaient repris la mer. Sorcor voulait déjà rentrer dès qu'ils en auraient terminé avec l'île des autres. Kenneth avait dû lui rappeler avec sévérité qu'en tant que chef de famille, il se devait de gagner convenablement sa vie. Il ne pouvait tout de même pas revenir vers Alice les poches vides, n'est-ce pas? D'autant que Sinker Faldin était absent de la ville quand les trafiquants d'esclaves avaient attaqué. Il pouvait rentrer d'un jour à l'autre avec ses fils. Sorcor devait être en mesure de prouver au père d'Alice qu'il pouvait largement subvenir aux besoins de sa fille. Ce discours avait rallumé la ferveur de l'homme pour la piraterie avec une férocité qui avait surpris Kenneth lui-même. Décidément, Sorcor était plus complexe qu'il ne l'avait cru au premier abord. L'avant de la yole ripa sur le sable noir de la grève, le ramenant brutalement au présent. Il parcourut du regard la petite baie ténébreuse tandis que les nageurs sautaient par-dessus le plat-bord et tiraient l'embarcation au sec. Des murailles rocheuses et des arbres persistants ceignaient la plage. Peu de changements ici, depuis sa dernière visite.
Les os de quelque grand animal couvert d'une écume verte étaient pris dans les rochers, les racines d'un arbre sur la falaise au-dessus avaient cédé, et le tronc sombre pendait maintenant, né vers le sable, des algues emmêlées dans ses branches mortes. Un étroit sentier gravissait la falaise le long d'une crevasse dans un mur de pierre noire. Kenneth escalada le plat-bord et mit pied sur le rivage. Il était périlleux pour lui de marcher avec sa béquille sur les vésicules spongieuses des algues, les moules bleues et les bernicles blanches sur les rochers noirs étincelants. Il passa un bras autour des épaules d'Etta dans un semblant d'affection.
« Etta et Yémin vont venir avec moi. Vous deux, attendez-nous ici. »
Les hommes marmonnèrent un acquiescement inquiet alors que Kenneth examinait sans enthousiasme la sente escarpée. Une longue marche l'attendait, sur une piste pierreuse. Un instant, il douta de la sagesse de sa décision. Puis il croisa le regard de Yémin. Le garçon était anxieux, mais l'impatience dansait dans ses yeux. En un éclair, Kenneth eut à nouveau l'impression d'être lié à lui. Yémin lui ressemblait tellement au même âge. Parfois, il avait éprouvé ce même élan d'exaltation, surtout quand ils avaient repéré un navire de premier choix. Mais bientôt, le pâle sourire sur son visage se transforma en grimace de dégoût. Il chassa le souvenir. Non, il n'avait jamais rien partagé avec Ygrotte. Après tout, l'homme l'avait asservi. Il ne ressentait rien à son égard, rien que du dédain.
« Allons-y »
ordonna-t-il si sèchement que Yémin sursauta légèrement. Kenneth commença à gravir l'étroit défilé, appuyé sur Etta. Lorsqu'ils eurent atteint la crête de la première colline, la chemise de Kenneth était collée à sa poitrine. Il dut s'arrêter pour se reposer. « C'est le temps, » se dit-il. Il faisait plus chaud que lors de sa dernière visite. Sous les arbres, la chaleur devint plus étouffante encore malgré l'ombre. Le sentier de galets qui traversait le domaine des autres était toujours aussi bien entretenu. La dernière fois qu'il était passé là, l'amulette à son poignet lui avait expliqué qu'un charme imprégnait le chemin, destiné à empêcher les voyageurs de s'écarter. Maintenant, alors qu'il lançait un regard en direction des ombres vertes de la forêt, il trouvait l'idée absurde. Qui aurait envie de s'écarter en suivant un chemin droit et plan pour s'aventurer dans un labyrinthe aussi touffu? Et il sortit son mouchoir et s'épongea la figure et le cou. Quand il regarda autour de lui, il s'aperçut que les deux autres l'attendaient. Il s'exclama hargneux.
« Eh bien, vous êtes prêts? Continuons !»
Le gravier glissait de façon imprévisible sous sa béquille et son pilon. La lutte constante qu'il menait pour corriger son équilibre multipliait la distance à franchir alors que le sentier descendait la colline en serpentant puis remontait. Au sommet de la deuxième crête, quand il s'arrêta pour reprendre haleine, il parvint subitement à une décision.
« Ils ne me veulent pas ici, » dit-il tout haut.
Les arbres parurent renvoyer un écho approbateur à ses paroles.
« Les autres me compliquent les choses. Ils essaient de m'inciter à rebrousser chemin, mais je ne renoncerai pas. Yémin aura son oracle. »
Alors il porta une nouvelle fois son mouchoir à sa figure. Il aperçut l'amulette à son poignet. Le visage était figé dans un petit sourire de clown, les lèvres entrouvertes, la langue pendante. Elle se moquait de lui. Délibérément, Kenneth posa le pouce sur le fond du charme et le gratta, mais, comme toujours, le bois sorcier dur comme fer le défia. L'amulette ne scilla même pas. Il leva les yeux vers les deux autres, les surpris qui le scrutaient, consternés. D'un geste désinvolte, il passa le pouce sur la petite figure de bois comme s'il l'époustait. Il prit une décision difficile.
« Yémin, pars en avant. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu parcours seul la plage au trésor, sans être distrait par ma présence. Je pourrais te pousser involontairement à ramasser quelque chose que tu n'es pas destiné à découvrir. Je m'en voudrais de fausser la prophétie. Va maintenant. Etta et moi, nous serons là pour entendre l'oracle de l'autre. C'est cela qui compte vraiment. Va maintenant. »
Yémin parut hésiter. Il échangea un regard avec Etta, qui eut un imperceptible haussement d'épaule.
Kenith sentit la fureur le gagner.
« Tu discutes mon ordre ? Va !»
Son rugissement fit détaler le garçon.
« Bien !»
Kenith mit dans le mot toute sa satisfaction. Il secoua la tête.
« Yémin doit apprendre deux choses de moi, à obéir et à être capable d'agir par lui-même. »
Il recala la béquille sous son bras.
« Suis-moi, pas trop vite, car je veux que Yémin prenne tout son temps sur la plage. On ne doit pas précipiter ce genre de choses. »
« C'est sûr, » approuva Etta.
Elle jeta un regard vers la forêt.
« C'est un endroit étrange. J'ai rarement vu pareille beauté. » Pourtant, elle se refuse à moi.
Comme saisie de frayeur, soudain, elle s'avança pour prendre le bras libre de Kenith. Il secoua la tête.
Faible femme.
Il se demanda pourquoi le charme avait tant insisté pour qu'il amenât Etta. Non qu'il eût consulté l'amulette sur cette expédition. Ce fichu charme s'était obstiné à lui donner son opinion, pas une mais plusieurs fois.
Prends Etta, tu dois prendre Etta avec toi.
Avait-il exhorté. Maintenant, regardez-moi ça. Il allait être obligé de s'occuper d'elle, c'était sûr.
Allez, viens,
lui dit-il avec fermeté.
Si tu restes sur le sentier, il ne t'arrivera aucun mal.
Yémin courait. Non pour fuir Etta et Kenith. Il se sentait presque lâche de les avoir abandonnés là-bas. Il fuyait la forêt, qui le cueillait dans ses paumes comme une souris prise au piège. Il fuyait l'étrange et accablante beauté des fleurs menaçantes, les parfums pénétrants qui tout ensemble le tentaient et le répugnaient. Il fuyait même le murmure des feuilles que la chaude haleine du vent faisait jaser sur sa mort. Il courait, la peur plus que l'effort lui faisant battre le cœur. Il courut jusqu'à ce que le sentier le rejette sur un replat dégagé. Devant lui, s'arquait sur la mer la voûte bleue du ciel. Une plage incurvée s'étendait, encadré à ses extrémités de falaises crochues. Il fit halte à bout de souffle en se demandant ce qu'il était censé faire. Kenith ne lui en avait dit que très peu.
« C'est simple. Tu marches le long de la plage. Tu ramasses ce qui t'intéresse et au bout de la plage, un autre te saluera. Il te demandera une pièce d'or. Tu la lui donnes. Dépose-la simplement sur sa langue. » Alors, il te répétera les prophéties qui te concernent.
Kenith avait baissé la voix pour confier sceptique.
Certains racontent qu'il y a un oracle sur l'île. Une prêtresse, disent les uns. Une déesse captive, disent les autres. Selon la légende, elle connaît tout le passé, tout ce qui a jamais été. Connaissant le passé, elle peut prédire la forme que prendra l'avenir. Je doute que ce soit vrai. Je n'ai rien vu de tel quand j'y suis allé. L'autre nous dira ce que nous avons besoin de savoir.
Lorsque le garçon avait cherché à obtenir davantage de détails, Kenith s'était impatienté.
« Yémin, assez de tergiversation. Quand le moment sera venu, tu sauras quoi faire. Si je pouvais te révéler tout ce que tu trouveras et feras sur l'île, nous n'aurions pas besoin d'y aller. » Tu ne peux pas toujours dépendre des autres pour vivre et penser à ta place. »
Le garçon avait baissé la tête et accepté humblement la réprimande. Kenith l'exhortait ainsi de plus en plus souvent. Parfois, Yémin avait l'impression que le pirate le préparait à quelque chose, mais il ignorait à quoi. Depuis partage, il avait admis qu'il était loin de connaître Kenith. Il l'avait suivi tout un long après-midi, traînant un sac de pieux et un maillet. Le pirate avait compté les pas et fait un trou avec son pilon à l'emplacement voulu de chaque pieu. Certains marquaient les limites d'une route, d'autres les coins d'une maison. Quand ils eurent fini, qu'ils regardèrent en arrière, Kenith parut pétrifié. À côté de lui, Yémin tâchait de voir ce que l'autre voyait. Le pirate rompit le silence.
« C'est à la portée du premier imbécile venu de brûler une ville, »
fit-il observer.
On dit qu'Igrotte le téméraire en a incendié une vingtaine.
Il eut un grognement de mépris.
Moi, j'en fondrai une centaine. Mon souvenir ne sera pas lié à des cendres.
Yémin avait alors reconnu que c'était un homme qui voyait loin. Plus encore, il était l'instrument de ça. Il promena son regard de gauche à droite. Kenit l'avait enjoint de parcourir la plage. Où était-il censé commencer? Cela avait-il de l'importance? Avec un haussement d'épaule, il se tourna face au vent et se mit en marche. La marée continuait à baisser. Une fois qu'il aurait atteint l'extrémité du croissant, il ferait demi-tour et entreprendrait sa quête. Il parcourrait toute la plage en quête de son destin. Le soleil éclatant cognait sur sa tête. Il se reprocha en marmonnant de n'avoir pas apporté de foulard. Il gardait les yeux rivés sur la grève, mais ne vit rien qui sorte de l'ordinaire. Des amas d'algues noires, membraneuses, des coquilles vides de crabes, des plumes mouillées, des morceaux de bois flottés marquaient la laisse de mer. Si de tels objets devaient prédire son avenir, il doutait fort que les prophéties soient mirobolantes. Vers l'extrémité de la plage incurvée, le sable cédait la place à des affleurements de roches noires. Le replat derrière lui s'élevait à une hauteur de mât et montrait ses contreforts d'ardoise et de schiste. La marée basse avait dénudé ces degrés habituellement recouverts. Leur surface craquelée et piquetée recelait des flashs grouillantes de vie qui avaient toujours attiré Yémin. Il jeta un regard en arrière vers le sentier de la forêt. Aucun signe d'état ni de kénit. Il avait un peu de temps. Il flâna parmi les rochers, progressant avec prudence. Les algues sous les pieds étaient dangereusement glissantes et, en cas de chute, il atterrirait sur les bernicles et les moules bleus. Les flashs abritaient des anémones et des étoiles de mer. De minuscules crabes filaient d'oasis en oasis. Une mouette vint se poser pour se joindre à son inspection. Il s'agenouilla un instant au bord d'une flaque. Des anémones rouges et blanches s'épanouissaient sous la surface. Il remua du doigt l'eau tranquille et en un éclair, les délicats pétales de l'animal se replièrent loin de lui. Il sourit, se leva et reprit sa marche. Le soleil lui chauffait le dos et atténuait la douleur de son bras. Il n'y avait d'autre bruit que celui du vent, de l'eau et les cris des mouettes. Il avait presque oublié le plaisir simple de marcher sur une plage déserte par une belle journée. Il ne s'était pas rendu compte qu'il en avait franchi le promontoire jusqu'à ce qu'il regardât en arrière. Il ne voyait plus la plage. Après une rapide inspection des falaises au-dessus de lui, il comprit qu'être surpris ici par la marée montante signifierait la mort. Elle s'élevait, noire, à pic. Sauf... Il recula de quelques pas et cligna de l'œil vers le haut. Il y avait une fissure là-haut, ou peut-être même une crevasse. Un sentier étroit montait à travers le front de la falaise. Il n'était pas très haut, une hauteur de 2 hommes, guère plus. Sans réfléchir, il avait déjà commencé à grimper. Il s'agissait d'une piste et non d'un accident naturel. Celui qu'il avait tracé avait le pied plus sûr que lui. Elle n'était pas assez large pour qu'on puisse y marcher à l'aise. Yémin était obligé d'avancer de profil, face à la roche. Le sentier grimpait dur. Il brillait sous les pieds d'une substance miroitante comme la trace séchée d'une limace. Tantôt il semblait glissant, tantôt poisseux, et aussi plus haut, soudain, qu'il n'était apparu de la plage. S'il tombait, il atterrirait sur les rochers et les bernicles. Pourtant, puisqu'il était arrivé jusque-là, il satisferait sa curiosité. Il parvint alors à un renfoncement dans la roche, le début d'un étroit corridor. Il pénétra à l'intérieur et trouva le chemin coupé par des barreaux métalliques. Il s'approcha pour regarder à travers. Une fissure très étroite dans la roche se prolongeait jusqu'au sommet de la falaise. La lumière du soleil tombait, indécise, d'un orifice situé très haut. On avait taillé et creusé une cavité pas plus large qu'une charrette. À l'intérieur de cette grotte artificielle, le sol rocheux s'inclinait à pic. L'eau d'une grande marée était retenue ici dans une piscine obscure et dormante. Il voyait la lumière se refléter à la surface. Alors, à quoi servaient les barreaux ? À empêcher les gens d'entrer ou à empêcher quelque chose de sortir ? Il saisit un barreau à pleine main et essaya de l'ébranler. Il ne bougea pas d'un pouce, mais il pouvait pivoter en crissant sur la pierre. Tout à coup, la surface de la piscine se mit à bouillonner. Yémin recula si vivement qu'il faillit tomber de la falaise. La mare était plus profonde qu'il n'y paraissait pour abriter pareille créature. L'animal le fixait de ses immenses yeux dorés. Alors, Yémin s'enhardit jusqu'à se rapprocher des barreaux. Il s'y agrippa et écarquilla les yeux. Le serpent de mer confiné dans la grotte était tout rabougri. Son corps marquait les limites de la mare. Sa tête avait la taille d'un poney. Son corps était si convoluté que Yémin ne pouvait évaluer sa longueur. Il était d'un jaune vert pâle, comme un champignon phosphorescent. Au contraire des serpents de mer écailleux qu'il avait entrevus depuis le pont de la Vivacia, celui-ci semblait aussi gras et mou qu'un ver de terre. Sa peau montrait d'épaisses callosités aux endroits où il se frottait aux parois de sa prison. Yémin comprit alors qu'il devait avoir grandi jusqu'à remplir la piscine. Il avait été capturé et enfermé alors qu'il était encore petit. Il comprit aussi subitement que c'était le seul monde que cet animal eût jamais connu. Le garçon regarda autour de lui. Oui, une marée haute devait atteindre le rebord de la fissure et renouvelait l'eau salée. Et la nourriture? Quelqu'un devait lui apporter à manger? D'un seul battement de queue, il agita l'eau d'un bord à l'autre. Il vrillait sous l'effort. Yémin l'observait, rempli de pitié. L'animal forçait chaque segment de son corps serpentin pour essayer de se tourner. Il n'y parvint pas complètement. Il fixait le garçon de ses yeux pleins d'espoir.
« Alors tu es habitué à ce qu'on te nourrisse ?» fit-il remarquer. « Mais pourquoi te gardes-t-on ici ? Es-tu un animal de compagnie ? Un objet de curiosité ?»
L'animal pencha la tête sur le côté comme intrigué par les paroles. Puis il plongea son front immense dans l'eau pour le mouiller. Le mouvement représentait un effort dans l'exiguïté de l'espace. Quand il essaya de redresser le mufle, son corps tout entier se noua et fit un soubresaut. Yémin le regardait se débattre, bomber, frotter contre la pierre lissée par mains effleurements. Il émit un croassement de corbeau, puis libéra sa tête d'un coup sec. Yémin se sentit écœuré. Une nouvelle égratignure apparut sur le côté. Une humeur épaisse et verdâtre en suintait. Il replaça les mains sur les barreaux. Il pouvait les faire pivoter dans leur logement, mais ils étaient fixés profondément dans la pierre, à la fois en haut et en bas. Impossible de les déplacer. Et il s'agenouilla pour examiner leur fixation. Il trouva la réponse sous ses pieds. Il gratta le sable et les débris marins et découvrit les joints fins d'une pierre ouvrée. Au-dessus de lui, les logements des barreaux avaient été soigneusement percés dans la pierre. Une légère décoloration sur le métal indiquait qu'il pouvait s'agir d'une entaille ménagée dans la pierre, comblée après coup pour épouser la forme du barreau. Il se figura l'opération. On avait enfoncé les longues barres en biais dans les trous profonds percés en haut, on les avait fait basculer pour les mettre en place, puis on avait encastré les pierres qui les assujettissaient à leur base. Un examen des joints confirma sa supposition. Il essaya de soulever un barreau après l'autre. Ils avaient tous du jeu, certains plus que d'autres. Bon, maintenant qu'il savait comment l'ouvrage avait été fait, pouvait-il le défaire? Oubliant la plage au trésor et Kenith, il s'agenouilla sur le sol de l'alcôve. De ses mains, il balaya le sable et les débris, puis retira sa chemise et nettoya la surface de la dalle. Le beau poignard qu'Eta lui avait donné lui servit d'outil pour déloger le sable et le vieux mortier qui comblait les joints. L'animal le regardait travailler. À en juger par l'intérêt qu'il portait au garçon, il paraissait comprendre que sa liberté était en jeu. Yémin évalua sa corpulence d'après l'écartement des barreaux. « Il faudrait en retirer au moins 3, songea-t-il, peut-être même 4. » Si le mortier, ancien et friable, avait constitué le principal obstacle, le garçon en serait aisément venu à bout. Mais les blocs eux-mêmes avaient été taillés et encastrés de mains de maître. Il s'acharna jusqu'à ce que ses mains calleuses se couvrent d'ampoules. Il avait mal aux genoux. Il se pencha sur le joint et chassa le sable et le mortier en soufflant. Puis il glissa les doigts dans l'interstice. Ils s'y insérèrent exactement. S'il avait une prise, aurait-il la force de soulever la pierre? Il tira de toutes ses forces et crut sentir le bloc glisser légèrement. Il prit son couteau et se remit au travail malgré la douleur qui commençait à l'élancer dans son épaule blessée, tandis que le serpent le regardait en roulant ses yeux dorés. Avant qu'ils aient atteint la plage, Etta était baignée de sueur. En lui prenant le bras, elle était en mesure d'aider Kenneth sans que ce soit trop évident. Parfois, quand elle songeait à ce que le destin avait fait de cet homme, elle avait envie de hurler de fureur et de chagrin. Ce grand corps vigoureux, qui l'avait tant intimidé autrefois, prenait l'aspect tort d'un infirme à mesure que les muscles se développaient d'un côté pour compenser la perte de sa jambe. Elle remarquait comme il anticipait ses mouvements, toujours attentif à ne pas se couvrir de honte en faisant paraître la moindre faiblesse. Son caractère féroce ne s'était pas émoussé. Ses ambitions ne s'étaient pas restreintes. Elle redoutait seulement que la chaleur des feux qui l'animaient ne consume son corps affaibli.
« Où est-il ? » demanda le pirate. « Je ne le vois pas. »
Elle mit sa main en visière et parcourut la plage du regard.
« Je ne le vois pas non plus, »
dit-elle mal à l'aise. La grève incurvée montrait son sable noir et ses rochers adossés au replat. Rien qui puisse le dérober à la vue. Où était-il passé ? Elle cligna les yeux, éblouie par l'éclat du soleil sur l'eau.
Aurait-il déjà parcouru la plage ? L'autre l'aurait-il déjà accueilli et emmené quelque part ? Je ne sais pas,
gronda Kenneth. Il leva le bras et indiqua l'extrémité de la plage où un doigt de terre se séparait du rivage.
Là-bas, il y a la falaise aux alcôves où sont exposés tous les trésors. S'il a traversé la plage et rencontré un autre, il a pu l'amener là pour déposer ce qu'il a trouvé. Je voulais entendre ce que la créature lui dirait.
Elle crut qu'il allait l'accuser d'avoir trénassé sur le sentier ou de l'avoir retardé, mais il replaça sa béquille sous le bras et hocha la tête en direction du roc aux alcôves.
« Aide-moi à aller là-bas »
grommela-t-il. Elle promena le regard sur le sable mou et les parois inégales de roches noires qui constituaient la plage, et son cœur se serra. La marée était basse maintenant. Bientôt elle remonterait et recouvrirait peu à peu la grève. Les hommes restés près du canot attendaient qu'il s'en retourne à pleine mer. Il était plus sage, selon elle, qu'elle court en avant pour voir si Yémin se trouvait bien là-bas, plutôt que Kenneth soit obligé de traverser la plage en titubant. Elle faillit exprimer son idée tout haut, mais elle raidit l'échine et prit le bras du pirate. Il savait tout cela aussi bien qu'elle. Il avait demandé qu'elle l'aidât. Elle l'aiderait. Le dos de ses mains était écorché et saignait. Son bras les lançait lorsqu'il souleva le premier bloc de son lit. La pierre était plus lourde qu'il ne s'y attendait, mais c'était son ajustage précis qui s'était révélé le principal obstacle. Il prit appui des mains sur le sol en s'asseyant près du bloc et le poussa avec ses pieds pour l'écarter. La base d'un barreau était déchaussée à présent. Il se releva, arc-bouta son dos douloureux et empoigna le barreau à deux mains, le souleva. Le fer crissa sur la pierre et le serpent dans sa piscine battit de la queue avec impatience.
« Ne te réjouis pas trop vite !»
grogna Yémin. La barre métallique était plus lourde qu'il ne l'avait cru. Il avait beau la soulever, elle semblait interminable. Il prit appui des épaules, assura une nouvelle prise et refit une tentative. Soudain, il aperçut l'extrémité du barreau. Il tira en biais et fut récompensé par une pluie de mortiers. Il lâcha prise et le barreau, au lieu de glisser dans le trou, tomba sur la pierre avec un bruit mat. Yémin reprit son souffle, agrippa la hampe et tira l'extrémité dégagée vers l'entrée de la grotte. Elle céda lentement, en crissant sur la pierre éraflée et rabotée par le métal. Quand l'autre bout se détacha, il perdit l'équilibre et tomba, tandis que le barreau claquait sur le sol avec fracas, comme un marteau sur une enclume. Le bruit se répercuta dans le petit caveau. Yémin se releva.
« Eh bien, Edin, »
dit-il au serpent. Des paupières transparentes voilèrent brièvement les grands yeux dorés. L'animal sortit la tête de l'eau et la secoua. Une étoile charnue s'épanouit soudain autour de sa gorge. En le regardant se tordre dans l'eau, Yémin remarqua alors le vague dessin qui sillonnait son corps. Le chatoiement des couleurs lui évoqua les ocelles d'une queue de paon. Faisait-il la roue pour manifester sa colère ? Peut-être se sentait-il menacé ? Le pauvre animal avait probablement été confiné là toute sa vie. Peut-être croyait-il que Yéma menaçait son repère.
« À la prochaine marée, tu pourras partir librement, si tu le veux. »
Il s'exprima tout haut, sachant que ses paroles n'étaient que du bruit aux oreilles du serpent. Il ne pouvait probablement pas interpréter les inflexions rassurantes de sa voix. Le garçon s'agenouilla et se remit au travail pour déloger le bloc suivant. L'opération fut beaucoup plus rapide. Le mortier s'était depuis longtemps désagrégé en sable compact. Il disposait de la cavité laissée par le premier bloc, ce qui lui permit d'ébranler le second. Il affûta son couteau et saisit la pierre. Il n'était même pas obligé de la sortir complètement de son lit. Une fois qu'il l'eut poussée sur le côté, il s'attaqua au second barreau, qui avait plus de jeu que le premier, et il avait pris le tour de main maintenant. Alors que le métal crissait contre la pierre et que le mortier pleuvait à nouveau, il vint soudain à l'idée de Yémin que son acte pouvait irriter quelqu'un. Peut-être tout ce vacarme allait-il attirer l'attention? La barre claqua sur la pierre et Yémin l'évita d'un bond. Puis il s'approcha du bord de la fissure et jeta un coup d'œil alentour. Personne en vue. Mais une nouvelle menace lui apparut aussitôt. La marée commençait à remonter et à lécher les rochers. Des nuages d'orage s'amassaient à l'horizon. Le vent semblait pousser le flux. Les utricaires qui recouvraient la roche ondulaient maintenant au fil du flot. Il pouvait être pris au piège. En outre, il y avait d'autres questions à prendre en considération. La plage au trésor, l'oracle et le canot qui les attendaient. Kenith était probablement furieux contre lui. Il demeura là, à bercer son bras douloureux et à observer la marée qui montait à l'assaut de la plage. Le flux était rapide. Yéma n'avait aucune prise sur cet élément-là. S'il restait, il allait se retrouver piégé ici, à se faire tremper en pataugeant autour du promontoire. Il fallait qu'il s'en aille. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Il entendit un bruit provenant de la crevasse, un barreau de métal qui roulait sur la pierre. En fronçant les sourcils, il revint à l'intérieur et resta bouche bée devant le spectacle qu'il découvrit. L'animal s'était hissé hors de l'eau et se jetait contre les parois de sa prison. Sa tête, tournée de côté, était coincée dans l'ouverture ménagée par Yéma. Son corps mal conformé, tordu, avait encore la force de se débattre et de repousser les limites du bassin.
« Non, replonge » cria-t-il vainement. « C'est trop petit, il n'y a pas d'eau encore !»
L'animal ne pouvait le comprendre. Il se précipita sur les barreaux, mais ne parvint qu'à se coincer davantage. Il hurlait de frustration, il enrageait. L'étoile autour de son cou se hérissait. Il essaya en vain de dégager sa tête d'une secousse. Il était bloqué. Le cœur serré, Yéma comprit que lui aussi était bloqué. Il ne pouvait pas abandonner le serpent. Ses ouïes se contractaient aussi frénétiquement que ses mâchoires béantes. Le garçon ignorait combien de temps il pouvait survivre hors de l'eau. Il donnait des coups de queue avec la rage du désespoir. Si Yéma parvenait à déceler encore un barreau, peut-être le serpent retournerait-il dans sa piscine. Il ne serait pas libre, mais il ne mourrait pas. S'il se dépêchait, lui aussi pourrait rester en vie. Il approcha avec précaution pour choisir le barreau auquel il allait s'attaquer. Les secousses acharnées du serpent avaient ébranlé l'un des blocs, qui était aussi couvert d'une humeur visqueuse, ce qui n'allait pas faciliter la tâche. Il saisit un des barreaux décellés, terriblement long, mais qui lui éviterait au moins de toucher l'animal. N'importe quelle bête prise au piège est susceptible de mordre, et s'il était mordu par une créature de cette taille, il ne resterait plus grand-chose de lui. Il poussa le barreau entre les deux autres restants, s'en servant comme d'un levier. Malheureusement, cela impliquait de faire pression sur l'animal, qui rugit, mais, chose étonnante, ne l'attaqua pas. Le bloc qui assujettissait le barreau à sa base frotta contre les pierres voisines et bougea. Yéma introduisit son levier dans l'interstice qui s'élargissait entre les blocs. Cette fichue barre était tellement longue, elle se coinçait aux parois de la crevasse. Il parvint enfin à déplacer légèrement la pierre. Maintenant, le barreau.
« Ne me fais pas de mal !»
dit-il à l'animal en s'approchant et, ô merveille, celui-ci parut comprendre son intention, sinon ses paroles. Il s'immobilisa, les ouïes palpitantes. Peut-être était-il tout simplement en train de mourir. Yéma refusa de penser à cette éventualité et au temps qui s'écoulait. Il empoigna le barreau à pleine main et le souleva.
Il hurla. Ses mains brûlaient et gelaient sur le métal couvert d'écume. Mais l'atroce douleur sur sa peau n'était rien comparée à l'horreur qui le saisit quand il comprit la souffrance de la créature. Brutalement, il pénétra les affres d'un être conscient emprisonné depuis un temps inimaginable. Avec lui, il respira l'air brûlant. La sécheresse gerçait et cuisait sa peau tendre. Il comprenait avec terreur que bientôt il serait trop tard. Il fallait que le serpent s'échappe maintenant, sans quoi il serait trop tard pour eux tous. Il lâcha le barreau d'un mouvement convulsif. Son corps refusait la souffrance avec une telle violence qu'il fut projeté sur le sol. Il resta là, pantelant. Rien dans sa vie ne l'avait préparé à cette compassion débordante. Même ce qui l'attachait à la vive nef n'était qu'un lien grossier et insignifiant comparé à cette fusion. Durant un bref instant, il avait été incapable de se distinguer de l'animal. Non. Pas animal. À moins que lui aussi ne doive être considéré comme un animal. Cette créature ne lui était pas inférieure. Et en réfléchissant à ce qu'il venait de vivre, c'était à se demander si elle ne lui était pas supérieure. Il se remit sur pied. Il déchira sa chemise en morceaux, s'en enveloppa les mains et s'approcha à nouveau du barreau. Cette fois, il fut obligé de reconnaître l'intelligence qui s'éteignait dans les immenses yeux dorés. Il empoigna le barreau dans ses mains emmitouflées et le souleva avec difficulté car la substance qui recouvrait le métal le rendait glissant. Il fit deux tentatives avant de le desceller complètement. Le serpent de mer se précipita contre la barre et la repoussa de son énorme masse comme s'il s'agissait d'un fétu de paille. Yémin fut entraîné à la renverse, écarté brutalement, frôlé, brûlé par la pellicule poisseuse qui couvrait les écailles. Il poussa un cri en apercevant sa culotte de grosse toile qui s'effilochait et tombait en lambeaux. Il devina l'intention de la créature, et il en fut horrifié.
« Il n'y a pas d'eau en dessous !»
Il s'exprima à voix haute et en pensée avec autant de force qu'il en était capable.
« Des rochers, seulement des rochers! Tu vas mourir !»
« La mort est préférable. »
Le serpent le dépassa en ondulant, déroulant ses anneaux l'un après l'autre, comme on dévide une bobine de fil. Alors qu'il glissait devant lui, Yémin prit conscience de l'effort considérable que la créature devait déployer pour mouvoir son corps engourdi et difforme. C'était un acte de désespoir. Elle ignorait si elle s'élançait vers la liberté ou la mort, mais elle savait qu'elle laissait la captivité derrière elle.
« Oui. » « Pardon de t'avoir tué. »«
Ça ne fait rien, »
marmonna-t-il. Il n'était même pas sûr d'être mort. Il était hors de lui-même. Non, plus grand que lui-même. Comme dans la transe qu'il avait pris au monastère quand il travaillait à son vitrail. Mais plus grand, beaucoup plus grand. La douleur de sa chair brûlée n'avait pas plus d'importance qu'une écharde irritante dans le talon.
« Ah !»
soupira-t-il.
« Maintenant je te vois clair. Tu étais là tout le temps, les serpents et les dragons dans mes fenêtres, dans mon art. Comment savais-tu que je viendrais à toi ?»« Comment as-tu su venir à moi ?»
demanda-t-elle en retour. Mais elle n'attendit pas la réponse. Elle jaillit de la crevasse. Yémin se raidit, il ne voulait pas entendre le bruit du choc lourd sur les rochers en contrebas. Mais ce fut justement sa taille qui la sauva. Elle s'étira de toute sa longueur depuis la grotte jusqu'à la plage en dessous, en faisant glisser la partie antérieure jusqu'à toucher le sable, puis tira le reste de ses anneaux en ondulant comme un ver. Étrange. Bien qu'il n'y ait plus de contact physique, Yémin demeurait conscient de sa présence. Le soleil brûlant cognait sur elle. Le sable collait à sa peau. Elle roula, désemparée, sur les rochers hérissés de bernicles, en épuisant ses dernières forces. Elle avait besoin d'être portée par l'eau. Elle avait besoin d'humecter ses ouïes. Le flux ne faisait que lui lécher le ventre. Ce n'était pas suffisant. Elle s'était tant démenée, et voilà qu'elle allait mourir sur la plage. Un combat aussi acharné pour servir de pâture aux crabes et aux mouettes. Yémin sentit qu'il lui arrivait quelque chose de bizarre. Tout son corps réagissait maintenant.
Ses yeux gonflaient et se fermaient tandis que sa respiration sifflante s'échappait péniblement de sa gorge serrée. Ses yeux et son nez coulaient, il avait l'impression d'être écorché vif. Pourtant, il était debout, chancelant au bord de la crevasse. Sa chemise en lambeaux était entortillée autour d'une main, il apercevait le corps vert doré du serpent sur la plage, il le sentait cuire dans la chaleur torride, et il allait descendre le rejoindre. Il fallait affronter les trois sentiers. Il avança lentement le long du bord et au troisième pas, il bascula en arrière et atterrit sur le corps mou du serpent. La chute fut amortie, certes, mais c'était bien la seule consolation qu'on pouvait trouver à tomber dans une poêle à frire grésillante. Il hurla de douleur. Trop, c'en était trop. La créature échappait à sa connaissance et la substance qui recouvrait sa peau le rongeait. Il roula et rebondit sur les rochers incrustés de patelles. Une vague afflua, lui lécha timidement le visage et se retira. Si la fraîcheur de l'eau fut une bénédiction, le sel était en revanche une malédiction cuisante sur sa peau à vif.
Le plein.
Tout le désir d'un cœur immortel était contenu dans ce seul mot. Sa chemise était toujours entortillée autour de son bras étendu. Le tissu en lambeaux était alourdi par l'eau de mer. Il l'appliqua sur sa poitrine et rampa vers le serpent. Le monde était si obscur, et pourtant le soleil de l'après-midi le frappait de ses rayons brûlants. Ou frappait-il le serpent? Il réussit d'une secousse à se débarrasser des restes de sa chemise trempée qu'il jeta sur une ouïe de la créature. Mais l'étoffe ne recouvrit qu'une infime partie de sa tête.
« Cela me fait quand même du bien. Nous te remercions tous. »«
Nous ?» Il remua les lèvres, mais ce n'était pas par les mots qu'elle partageait ses pensées.
« Ma race, je suis la dernière à pouvoir les sauver. Je suis celle qui se souvient. Il est peut-être déjà trop tard. Mais s'il n'est pas trop tard, que je puisse encore les sauver, nous nous souviendrons de toi. Toujours. Console-toi avec cette pensée, créature de peu de souffle.
Yéma, je m'appelle Yéma.
La vague suivante les atteignit en clapotant un peu plus haut. Au contact de l'eau, le serpent se débattit faiblement et parvint à se soulever pour se rapprocher du rivage. C'était insuffisant. Égoïstement, Yéma se demanda si, en roulant assez loin du serpent, il cesserait de partager sa souffrance. La sienne lui suffisait amplement.
Puis, il songea qu'il se donnait beaucoup trop de peine.
Il resta étendu, immobile, et attendit que la vague suivante le soulève pour qu'il puisse enfin nager vers ceux de sa race. Au premier hurlement, Kenneth s'était arrêté net.
« Qu'est-ce que c'est ? »
demanda-t-il. Le son avait résonné bizarrement.
« Je ne sais pas, »
avait répondu Etta mal à l'aise. Elle ouvrit les yeux tout grands et regarda autour d'elle. Elle se sentit tout à coup très petite et vulnérable. Le sentier et la forêt protectrice étaient bien loin derrière eux. Ici, il n'y avait que du sable et des rochers. Le soleil éblouissant et l'eau à l'infini. À l'horizon, elle aperçut des nuages noirs. Le vent avait forci, annonciateur de pluie. Elle ignorait ce qu'elle redoutait, mais elle savait qu'il n'y avait nulle part où se protéger de la menace. Elle ne voyait rien d'inquiétant. Le cri paraissait n'avoir aucune provenance. Il fut suivi d'un silence sinistre.
« Qu'allons-nous faire ? »
demanda Etta. Les yeux pâles de Kenneth parcoururent la plage dans toutes les directions. Il leva la tête vers le replat derrière eux. Lui non plus ne voyait rien.
« On va continuer jusqu'au roc aux alcôves. »
commença-t-il, puis il s'arrêta. Etta suivit la direction de son regard. L'animal qu'elle aperçut n'y était pas tout à l'heure. Elle en était certaine. Il n'aurait pu se cacher nulle part et cependant il était là. La partie dressée de son corps avait la taille de Kenneth
et le reste se traînait comme une limace. Puis, il tendit ses membres antérieurs flexibles. D'une grâce impossible, ils se dépliaient souplement, avec à leur extrémité des mains écartées aux longs doigts palmés. Le corps était verdâtre et luisait d'humidité, excepté aux endroits recouverts d'une pellicule jaune pâle. Ses yeux plats les fixaient d'un air agressif.
« Allez-vous-en »
s'exclama-t-il.
« Allez-vous-en, elle est à nous !»
La voix sifflante, vibrante, était lourde de menaces. Il n'était jusqu'à son odeur qui ne soit effrayante, mais Ethan aurait su dire pourquoi. Elle savait seulement qu'elle voulait s'en éloigner le plus possible. La créature était trop étrangère, trop autre. Elle saisit le bras de Kenneth. « Allons-nous-en d'ici !» supplia-t-elle en le tirant. On eût dit qu'elle tirait sur le bras d'une statue. Il banda ses muscles et lui résista.
« Non, ne bouge pas, Eta. Écoute-moi. C'est de la magie, un enchantement qu'il jette sur nous. Il te suggère ta peur. N'y cède pas. Il n'est pas si effrayant. »
Avec un petit sourire supérieur, il tapota l'amulette à son poignet.
« J'y suis invulnérable, crois-moi. »
Elle s'efforçait de l'écouter, sans y parvenir. Le vent lui apportait la puanteur de l'animal, une odeur qu'elle reconnut instinctivement. Un cadavre en putréfaction. Cela la révulsa tout comme le regard fixe de ses yeux plats. Elle eut envie de se couvrir pour se mettre hors d'atteinte de ses yeux-là.
« Je t'en prie !»
supplia-t-elle, mais il avait planté son regard dans le regard de l'autre. Il se secoua pour se dégager d'elle avec une force qui la surprit. Il l'avait oubliée. Elle pouvait courir si elle voulait. Où trouvait-elle la force de rester sans bouger et d'observer? Kenneth narguait l'autre avec un courage qu'elle jugea inimaginable. La béquille sous le bras, il fit d'abord quelques pas en direction de la créature. Eta distinguait la palmure entre ses longs doigts.
« Allez-vous-en !»
cria l'autre d'une voix menaçante. Kenneth se contenta de sourire et de hausser les épaules.
« Par là !»
dit-il, et il la guida vers la piste qui menait au sentier de la forêt. Le soulagement l'envahit. Et il s'en allait. Alors qu'il avançait péniblement sur le sable mouvant, elle marchait furtivement à ses côtés. Kenneth tournait sans cesse la tête pour regarder l'autre. Elle ne pouvait le lui reprocher, mais elle était bien incapable d'en faire autant. Elle saisit le bas de sa manche et il la laissa s'accrocher à lui tandis qu'il poursuivait son chemin en boitant. Il s'arrêta subitement et se tourna vers elle avec un large sourire.
« Voilà, maintenant nous savons, et on va devancer l'autre. »
Elle jeta un coup d'œil effrayé par-dessus son épaule. L'animal ondulait rapidement sur le sable, mais malgré tous ses efforts, il paraissait se mouvoir lentement. Elle recommença à trembler de terreur, en sentant à nouveau autour d'elle l'odeur de la créature. Elle ne put maîtriser ses frissons.
« N'aie pas peur !» lui ordonna Kenneth vainement. « Regarde comme il se dépêche maintenant. Il croit qu'on s'enfuit. Ce qu'il cherche à protéger est dans cette direction. Viens, aide-moi. Il faut qu'on aille le plus vite possible. »
Elle ferma les yeux, absolument terrorisée.
« Kenneth, je t'en prie, il va nous tuer !»«
Eta !»
Il lui serra l'avant-bras comme dans un étau et la secoua.
« Fais ce que je te dis !» « Je te protégerai. Allez, viens !»
Il recala la béquille sous son bras, puis se remit en marche pour descendre vers la plage. Il se déplaçait au pas de course comme un animal à longues pattes, en balançant sa béquille. Les galets et le sable glissaient sous ses pas, mais il gardait l'équilibre. Derrière eux retentit le cri d'indignation de l'autre, qui se répéta en écho. Eta se retourna, saisie de terreur. Il y avait plusieurs autres. Il semblait se dresser hors de terre, sourdre du sable. Elle courut comme le vent après Kenneth. Elle trébucha une fois, ses mains glissèrent sur les rochers et le sable. Elle se remit péniblement debout, les paumes écorchées, les bottes remplies de petits galets. Elle courut. Elle rattrapa Kenneth au moment où éclata le second hurlement. Il pâlit subitement.
« C'est Yéma, »
dit-il haletant.
« Je sais que c'est lui. Yéma !» « On arrive, mon gars, on arrive !»
Aussi incroyable que cela pût paraître, il força l'allure. Éta courait à grandes enjambées à côté de lui. Les autres progressaient derrière eux, en bombant le dos comme des morses. Certains portaient des tridents. Quand ils atteignirent l'extrémité de la plage, Éta avait la bouche sèche et son cœur tambourinait dans sa poitrine. Il n'y avait rien en vue sauf le promontoire rocheux qui s'élevait au-dessus d'eux. Kenith regardait de droite à gauche, en quête d'une piste ou d'une trace. Il rejeta la tête en arrière et inspira profondément.
« Yémin !»
beugla-t-il. Il n'y eut pas de réponse. Il se retourna vers la vague déferlante des autres. Le vent avait forci et les premières gouttes d'une pluie tiède s'écrasaient sur le sable.
« Kenith !»
fit Éta pantelante. « La marée monte, le canot nous attend. Peut-être Yémin est-il retourné là-bas, au canot ?» Alors ils entendirent un hurlement de douleur. Éta se figea, mais Kenith n'hésita pas. Il entra dans l'eau, béquillé le reste. Elle n'était même pas sûre que le cri provenait de cette direction. Avec le vent, il était difficile de se faire une idée. Pourtant, elle le suivit. L'eau salée vint s'ajouter au sable et aux galets dans ses bottes. Elle jeta un regard angoissé en arrière. Les autres avançaient toujours. À leur vue, elle se figea. Puis, dans un grondement soudain, le vent et la pluie s'abattirent sur elle. L'éclat du jour disparut. Tout était obscur et gris. Elle titubait dans les vagues après Kenith. Elle s'agrippa à sa manche autant pour se guider que pour l'aider à résister au flux.
« Où allons-nous »
cria-t-elle à travers le grain d'été.
« C'est pas autour du promontoire !»
La pluie qui tombait à verse avait trempé ses cheveux noirs jusqu'aux épaules et les collait à son crâne. L'eau dégouttait de sa longue moustache. Il vacillait à chaque vague qui arrivait.
« Pourquoi ?»
Il ne répondit pas. Il continua à avancer et elle suivit, agrippée à sa manche. La pluie se refroidissait, les vagues étaient glacées. Elle essaya de ne penser qu'à leur progression. Elle s'interdit de s'inquiéter du canot de l'autre côté de l'île. Il ne les abandonnerait pas ici, certainement pas. Soudain, Kenith poussa un cri et pointa le doigt.
« Là, il est là !»
Autour du promontoire s'étendait une petite plage rocheuse ceinte de falaises d'ardoises noires. Le corps de Yémin se soulevait et retombait au rythme des vagues qui le baignaient. Près de lui, une chose immense, jaune verdâtre. À la façon dont elle se vautrait dans l'eau, on voyait qu'elle était vivante. Soudain, elle releva une tête énorme et Éta reconnut le corps difforme. C'était un serpent de mer échoué. Ses immenses yeux dorés roulaient vers elle. Une nouvelle vague vint les balayer et faillit soulever son corps. L'animal plongea la tête dans l'eau, la redressa et lentement la renversa en arrière, la secoua. Tout à coup, une grande crinière charnue se hérissa autour de son poitrail. Il ouvrit une gigantesque gueule rouge bordée de longs crocs blancs et rugit dans le vent et la pluie.
« Yémin !»
répéta Kenith en hurlant.
« Il est mort !»
lui cria Éta.
« Il est mort, mon amour, tué par le serpent. Ce n'est plus la peine. Partons tant qu'il en est encore temps. »«
Il n'est pas mort. Il a bougé. »
Il y avait tant de frustration dans sa voix. Il paraissait terrassé par le chagrin.
« C'est le jeu des vagues !»
dit-elle en le tirant doucement par le bras.
« Il faut y aller, le navire !»«
Yémin !»
Cette fois, on ne pouvait s'y méprendre. Le garçon avait levé la tête. Ses traits étaient à peine reconnaissables. Il était dans un tel état. Sa bouche enflée remua.
« Kenith !»
gémit-il. Elle crut à un cri de détresse. Alors le garçon reprit péniblement son souffle et s'écria «
« Derrière vous, les abominations !»
Un doigt palmé s'enroula mollement autour de la cuisse d'Éta. Elle hurla. Le cœur battant, les oreilles bourdonnantes, elle fit volte-face. Les yeux plats de poisson la fixaient, plantés haut sur un front surmonté d'un crâne chauve, obtus. La gueule béante, la mâchoire inférieure pendante, un orifice assez large pour engloutir une tête d'homme. Elle ne vit pas Kenith dégainer son poignard. Elle ne vit que la lame qui s'enfonçait dans la chair élastique. Le membre s'étira avant de se séparer du tronc. L'autre éructa un grognement de protestation et saisit son membre sectionné. Kenith se baissa vivement, détacha la main toujours accrochée à la cuisse d'État et la lança à l'autre.
« N'aie pas peur d'eux !» brailla-t-il. « Sors ton couteau, femme. As-tu oublié qui tu es ?»
Il se détourna avec dédain pour accueillir le monstre suivant. La question provoqua un déclic en elle, ou fût-ce le contact du manche du poignard dans sa main. Elle dégaina, leva la tête pour hurler son défi à ces bêtes qui cherchaient à l'ensorceler. Elle porta un coup cinglant à un autre, écorchant au passage la peau coriace. La créature se désintéressa d'elle, flottant dans l'eau avec une grâce dont elle était dépourvue sur la terre ferme. Kenith avait achevé celle qui s'en était prise à état, mais les autres n'attaquaient plus. Ils les évitaient et se déployaient en éventail pour encercler le serpent échoué et Yémin.
« Elle est à nous! C'est notre déesse! Vous ne pouvez pas nous voler notre oracle! Ce qu'on trouve sur la plage au trésor doit y rester !»
Les autres éructaient, coassaient comme des grenouilles. Ils entouraient le serpent. Certains brandissaient d'un geste menaçant leurs petites lances pointues. Qu'avaient-ils l'intention de faire? Massacrer le serpent? Le garder quelque part? Quelle que soit leur visée, Yémin était résolu à s'y opposer. Il s'était péniblement remis sur pied, mais Éta ne comprenait pas comment il parvenait à rester debout. Son corps était enflé comme celui d'un noyé. Ses yeux n'étaient plus que des fentes sous la saillie d'un front boursouflé. Mais il résistait à l'assaut des vagues en distribuant de grands coups au hasard pour se placer entre le serpent et ses bourreaux. Il éleva la voix.
« Abomination ! Reculez ! « Laissez partir librement celle qui se souvient, afin qu'elle accomplisse son destin !»
Ces paroles résonnèrent bizarrement, comme s'il récitait par cœur des mots d'une langue qu'il ne connaissait pas. Une vague faillit le renverser et souleva le corps massif du serpent. Sa queue enroulée retrouva son utilité. Il glissa sur une courte distance vers la mer. Encore quelques vagues, il se libérerait et disparaîtrait. Les autres parurent s'en rendre compte à leur tour. Ils bondirent en avant, en le lardant de coups de trident pour le pousser vers le rivage. L'un d'eux se rapprocha aussi de Yémin. De sa main enflée, le garçon chercha le couteau pendu à sa taille. Il le tira et tenta de se ramasser en position de combat. Ce simple mouvement qu'elle lui avait appris perça Éta au cœur. Elle restait là, la lame nue à la main sans rien faire, alors qu'il était en train de mourir. Impossible ! Elle jaillit en avant, avec un cri aigu, pataugea frénétiquement dans l'eau, et quand elle fut tout près, elle plongea son poignard dans l'arrière-train de limaces de l'animal. La lame rebondit sur la chair squameuse. Le monstre n'avait pas d'armes, mais n'hésita pas à attaquer. Yémin parvint à lui donner un bon coup avant que l'autre ne l'attrape au poignet. Le garçon s'immobilisa subitement. Éta devina la terreur qui lui gelait le cœur au contact de la bête. Elle porta un second coup. Le couteau s'enfonça profondément. Elle agrippa le manche à deux mains, le tira vers le bas et éventra l'autre. Il ne saigna pas. Elle n'était même pas sûre qu'il sente quelque chose. Elle le frappa encore, plus haut. Kenith apparut près d'elle, s'acharna sur la main qui retenait Yémin. L'autre s'éloignait furtivement en entraînant le garçon. Alors, la tête du serpent s'arqua au-dessus d'eux. Il saisit l'autre dans ses mâchoires, engloutit tête et épaules voûtées. Il souleva l'animal de l'eau puis le rejeta plus loin avec mépris. Yémin chancela, déséquilibré par la lutte. Kenith lui empoigna le bras.
« Je l'ai. Allons-y !»« Elle doit s'échapper. Ne les laissez pas la reprendre. Celle qui se souvient doit rejoindre les siens. »
« Si tu veux parler du serpent, il fera comme il voudra. Il n'a pas besoin de notre aide. Viens, mon gars, la marée monte !»
Éta prit l'autre bras de Yémin. Il était presque aveugle, les yeux bouffis et sa figure déclinait toutes les nuances de rouge. Comme une chenille estropiée, les trois bondirent vers le promontoire à travers les trombes de pluie. Les vagues avaient gagné en force à présent et l'eau leur arrivait aux genoux. Le courant ballottait les galets et le sable sous leurs pieds tandis qu'ils s'efforçaient de rejoindre le rivage. Éta ne comprenait pas comment Kenith pouvait conserver l'équilibre, mais il s'agrippait à Yémin, à sa béquille, et luttait vaillamment. Le promontoire avançait dans la mer. Il leur faudrait aller plus profond s'ils voulaient le contourner pour rejoindre la plage. Éta refusa de penser à la longue traversée de l'île vers un canot qui peut-être n'était plus là. Elle ne regarda qu'une seule fois en arrière. Le serpent était libre maintenant, mais il n'avait pas disparu. Il happait les autres, un par un, dans ses mâchoires. Il en lançait certains encore entiers et désarticulés, d'autres tombaient de sa gueule, coupés en deux. À côté d'Éta, Yémin répétait sans cesse un seul mot avec une haine obsédante.
« Abomination ! Abomination !»
Une vague plus forte vint les frapper. Éta sentit se dérober le sable sous ses pieds, puis se prit à trébucher. Elle s'accrocha à Yémin pour ne pas tomber. Alors qu'elle retrouvait son équilibre, une seconde vague les emporta tous les trois. Elle entendit le cri de Kenith, s'agrippa désespérément au bras de Yémin pour ne pas couler. L'eau chargée de sable lui remplit le nez et la bouche. Elle se releva, pantelante, ruisselante, cligna les yeux. Elle vit la béquille de Kenith flotter devant elle. Elle l'attrapa machinalement. Kenith était à l'autre bout. Il rampa jusqu'à elle, puis lui prit le bras.
« À la plage !»
leur commanda-t-il. Mais elle était désorientée. Elle avait beau tourner éperdument la tête dans tous les sens, elle n'apercevait que les falaises noires, l'eau écumante à leurs pieds et quelques fragments flottants des corps des autres. Le serpent avait disparu. La plage aussi. Ils allaient se fracasser sur les rochers, être emportés au large et noyés. Elle se retint désespérément à Kenith. Yémin n'était qu'un poids mort qu'elle halait. Il se débattait faiblement dans l'eau.
« Vivacia !»
dit Kenith près d'elle. Une lame les enleva plus haut. Elle aperçut la plage incurvée. Comment se faisait-il qu'il s'en soit éloigné à ce point et si vite ?«
Par là !»
cria-t-elle. Elle se sentait entravée entre ses deux compagnons. Elle se pencha en direction du rivage et donna de furieux coups de pied, mais le flux les éloignait inexorablement de la grève.
« On n'y arrivera jamais !»
s'écria-t-elle au comble de la frustration. Giflée par une vague, elle suffoqua. Quand elle put voir à nouveau, elle faisait face à la plage.
« Par là, Kenith, par là ! Voilà le rivage !»«
Non !»
corrigea-t-il, transfiguré par la joie.
« Par là, le navire est par là. Vivacia, on est ici !»
Éta tourna la tête avec lassitude. La vive nef se dirigeait vers eux à travers la pluie battante. Elle apercevait les matelots sur le pont qui s'échinaient à amener un canot.
« Ils n'arriveront jamais jusqu'à nous »
fit-elle désespérée.
« Crois en la chance, ma chérie. Crois en la chance !»
la reprit Kenith sur un ton de reproche. De sa main libre, il se mit à pagayer en direction du navire. Il eut vaguement conscience de son sauvetage qui l'irrita considérablement. Il était si vivant, si plein de souvenirs. Il aurait aimé rester tranquille et tout absorbé. Mais il s'accrochait à lui sans répit. La femme ne cessait pas de le secouer, de lui crier d'une voix perçante de rester éveillé, rester éveillé. Il y avait une voix d'homme qui n'arrêtait pas de hurler qu'elle devait lui lever la tête, lui garder la tête hors de l'eau. Il était en train de se noyer, tu ne vois pas ? Yémin aurait voulu qu'ils se taisent tous les deux et le laissent tranquille. Il se rappelait tant de choses. Il se rappelait son destin comme il se rappelait toutes les vies qu'il avait vécues avant celle-ci. Soudain, tout fut si net. Il était sorti de l'œuf pour être le dépositaire de tous les souvenirs, pour tous les serpents. Il les renfermerait en lui jusqu'au jour où chacun serait prêt à venir à lui
et à régénérer à son contact leur héritage légitime. Il serait celui qui les guiderait vers leur patrie, loin en amont du fleuve, où ils trouveraient la sécurité et le sol particulier où ils pourraient fabriquer leur cocon. Il y aurait des guides qui les attendraient dans le fleuve pour les protéger au cours de leur voyage, qui montraient la garde près d'eux jusqu'au jour de leur métamorphose. Cela faisait si longtemps, mais il était libre désormais, et tout irait bien.
Prenez Yéma d'abord, il est inconscient.
C'était la voix de l'homme, épuisé mais toujours autoritaire. Une autre voix cria
« Par le souffle de ça, il y a un serpent, juste en dessous, montez-les à bord, vite, vite !»
Il l'a frôlé, embarquez le gamin, vite !
Une confusion de mouvements, et puis la douleur. Son corps ne savait plus se courber. Il était trop enflé. Ils le plièrent cependant, le saisirent par les membres et le hissèrent du plein dans le manque. Ils le lâchèrent sur une surface dure et irrégulière. Il resta étendu, suffoquant, en espérant que ses ouïes ne se dessécheraient pas complètement avant qu'il puisse s'échapper.
« Qu'est-ce qu'il a sur lui? Ça me brûle les mains. »«
Lavez-le entièrement, débarrassez-le de ce truc !»
dit quelqu'un.
« Amenons-le d'abord au navire !»
« Je ne crois pas qu'il tiendra jusque-là. Nettoyez-lui au moins la figure !»
On lui frotta la face. Ça faisait mal. Il ouvrit les mâchoires et essaya de rugir. Il expulsa des toxines, mais sa crinière ne voulait pas se dresser. C'était trop douloureux. Il glissa de cette vie dans la précédente. Il déploya ses ailes et prit son essor. Des ailes écarlates, le ciel bleu. En dessous, des champs verdoyants, des moutons gras et blancs pour se nourrir. Au loin, les tours étincelantes d'une cité. Il pouvait chasser ou il pouvait aller à la cité pour se nourrir. Au-dessus de la cité, une tornade de dragons décrivait des cercles comme des poissons brillants pris dans un tourbillon. Il pouvait les rejoindre. Les habitants de la cité viendraient le saluer en chantant, ravis qu'il les honore d'une visite. Des êtres si simples, qui vivaient à peine le temps de quelques souffles. Lequel de ces plaisirs le tentait davantage? Décision difficile. Il planait, emprisonnant le vent sous ses ailes et glissant dans le ciel.
Yéma! Yéma! Yéma!
Une voix d'homme qui venait battre contre son rêve et le brisait en mille morceaux. Il remua à contre-cœur.
Yéma! Il nous entend! Il a bougé! Yéma!
La femme ajouta sa voix à celle de l'homme. Cette très antique magie, l'utilisation du nom pour entraver un homme, le captura. Il était Yéma Vestrit, un simple humain, et il avait mal. Si mal. Quelqu'un le toucha et aviva sa souffrance. Il ne pouvait plus leur échapper désormais.
« Tu m'entends, fiston? Nous sommes presque au navire. Bientôt on pourra te soulager. Reste éveillé. Tiens bon !»
Le navire. Vivacia. Il eut un mouvement de recul, saisi d'horreur. « Si les autres étaient abominations, qu'était-elle ? » Il inspira. C'était pénible d'inspirer et plus pénible encore d'exhaler les mots.
« Non !»
gémit-il.
« Non !»
« On sera bientôt sur Vivacia. Elle va t'aider. »
Il ne pouvait pas parler. Sa langue était trop enflée. Il ne pouvait pas les supplier de ne pas le ramener au navire. Une partie de lui persistait à l'aimer tout en sachant ce qu'était la vive nef. Comment pourrait-il le supporter? Pourrait-il lui cacher ce qu'il savait? Pendant si longtemps, elle s'était crue vraiment vivante. Il ne devait pas lui apprendre qu'elle était morte. Jamais la mer ne leur avait résisté à ce point.
Éta était accroupi à l'arrière, embrassant le corps trempé de Yéma. Les quatre matelots souquaient dur. Sous l'effort, leurs yeux exorbités montraient le blanc. Ils luttaient contre deux courants contraires, l'un en direction de Vivacia, l'autre qui empoignait la petite embarcation et l'entraînait comme un chien avec son os. La pluie les cinglait, le vent les poussait, la mer les tirait. Kenit était bloqué à l'avant. Il avait perdu sa béquille quand on l'avait sorti de l'eau. Éta le distinguait à peine à travers le rideau de pluie. Les cheveux de Kenit étaient collés à son crâne et sa moustache s'était complètement raidie. Dans un moment d'accalmie, Éta crut apercevoir la Marietta au large. Ses voiles pendaient mollement de la mâture et le soleil miroitait sur ses ponts. L'instant d'après, Éta chassait l'eau de ses yeux en battant des cils. Ce qu'elle avait vu était impossible. Yémin pesait lourd sur ses jambes. En se penchant sur son visage, elle pouvait entendre sa respiration sifflante.
« Yéma, Yéma, continue à respirer, respire !»
Eût-elle trouvé son corps ailleurs par hasard, elle ne l'aurait pas reconnu. Ses grosses lèvres informes remuaient vaguement, mais il n'en sortait aucun son. Elle leva les yeux. Le regarder lui était insupportable. Kenit était entré dans sa vie et lui avait appris à être aimé. Il lui avait donné Yéma et il avait appris l'amitié. Maintenant, ce fichu serpent allait lui voler tout cela alors qu'elle venait seulement de le découvrir. Ses larmes salées se mêlaient à la pluie ruisselant sur son visage. C'était insupportable. N'avait-elle pas réappris à ressentir des émotions que pour subir ce tourment? L'amour, aussi grand qu'il soit, peut-il jamais compenser la souffrance qu'on éprouve à sa perte? Il ne lui était même pas possible de le tenir pendant qu'il mourait car l'humeur visqueuse qui le recouvrait rongeait ses vêtements et quand elle l'effleurait, elle lui arrachait la peau. Elle le berçait sans le serrer, tandis que le canot se balançait, se cabrait sauvagement, sans paraître se rapprocher de la Vivacia. Elle releva la tête et s'efforça de voir à travers l'orage. Elle surprit le regard de Kenit qui la dévisageait.
« Ne le laisse pas mourir !»
ordonna-t-il d'une voix forte. Elle se sentait impuissante. Elle ne pouvait même pas le lui dire. Elle le vit s'accroupir et crut qu'il allait ramper dans le canot pour l'aider d'une façon ou d'une autre. Mais il se leva soudain, pilon et pieds solidement ancrés. Il lui tourna le dos ainsi qu'au rameur et fit face à la tempête qui leur opposait une telle résistance. Il rejeta la tête en arrière. Le vent faisait claquer les manches de sa chemise blanche sur ses bras et flotter ses cheveux si noirs derrière lui.
« Non !»
hurla-t-il dans la tempête.
« Pas maintenant. Pas alors que je touche au but. Tu ne peux pas m'avoir. Tu ne peux pas avoir mon navire. Par ça, par elle, par Éda, par le dieu des poissons, par tous les dieux sans nom, « je jure que tu ne m'auras pas, ni moi, ni ce qui m'appartient !»
Il tendit les mains en griffes, comme s'il voulait saisir à bras-le-corps le vent qui les défiait.
« Kenit !»
La voix de Vivacia éclata à travers la tempête. Elle leur ouvrait ses bras de bois, se penchait vers la petite embarcation comme si elle voulait s'arracher du navire, pour aller à la rencontre du pirate, la chevelure au vent. Une vague la heurta qu'elle prit assez profond pour inonder son pont. Mais elle monta à la lame, les mains toujours tendues. La bourrasque contre laquelle elle luttait menaçait de la balayer, et pourtant elle se tendait vers lui au mépris de sa propre sécurité.
« Je vivrai !»
beugla Kenit dans l'orage.
« Je l'exige !»
D'une main, il saisit son poignet qu'il brandit dans la tempête.
« Je l'ordonne !»
rugit-il. Le roi accomplit son premier miracle. Alors, des abysses, l'animal monta à son commandement. Le serpent surgit à l'arrière du canot. Il ouvrit tout grand les mâchoires et ajouta son rugissement à celui de Kenit. Éta se recula, pauvre petit être ridicule qu'elle était, serrant Yéma contre sa poitrine. Elle chercha à tâtons son poignard perdu depuis longtemps, tout en gémissant de terreur et de désespoir. Alors le serpent de mer, tout immense qu'il soit, courba la tête sous la volonté de Kénith, s'inclina devant celui qui se dressait à l'avant, bravant la tempête. Le pirate se retourna en entendant la voix des matelots. Le visage livide et crispé, il pointa le doigt sur l'animal, la bouche ouverte, mais s'il parla, le vent emporta ses paroles. Plus tard, les rameurs raconteraient au reste de l'équipage que, quel que fût l'ordre qu'il avait donné, les oreilles humaines n'étaient pas destinées à l'entendre. Le serpent posa son large front sur la poupe et poussa. Soudain, le petit canot fendit l'eau vers la Vivacia. Kénith, épuisé par cette démonstration de puissance, se rassit brusquement à l'avant. Éta n'osa pas le regarder. Son visage irradiait d'une émotion que seuls, peut-être, les élus des dieux sont susceptibles d'éprouver. L'arrière de la modeste embarcation fumait, exhalant une odeur âcre là où l'humeur visqueuse du serpent la touchait. Il aurait été déloyal de la part d'Éta d'avoir peur, car l'animal agissait sur l'ordre de Kénith. Elle se pencha sur le corps de Yéma, le tenant aussi tendrement que possible, tandis que le serpent les poussait dans les vagues. Et il n'avait pas pitié du frêle esquif, le forçait à travers les lames qui leur résistaient. Les nageurs abandonnèrent leurs avirons et se blottirent au fond du canot, muets de terreur et d'effroi sacré. La Vivacia piquait du nez en avançant obstinément vers eux. On aurait dit à un moment que deux océans se heurtaient dans un tourbillon. La lame, les vents étaient affolés, le souffle du monde les cinglait, menaçait de leur arracher vêtements et cheveux. Éta était assourdi par la violence des éléments, mais le serpent continuait inexorablement à pousser l'embarcation. Soudain, ils se retrouvèrent courir au même vent et dans le même courant que Vivacia. Joyeusement, la mer et l'air les happèrent et s'entendirent avec le serpent pour les réunir. Le vent et le courant que Vivacia refoulait emportèrent le canot vers ses bras tendus. Elle prit une lame de plein fouet. Les matelots qui attendaient à la proue du navire, prêts à lancer les filins, s'agrippèrent éperdus à la lisse pour éviter d'être balayés par l'eau verte. Mais quand Vivacia émergea de la vague qui l'avait brièvement submergée, elle cueillit la frêle embarcation au creux de ses grands bras. Elle se souleva avec la lame en tenant le canot serré contre elle. Éta ne s'était jamais retrouvée aussi près de la figure de proue. Alors qu'elle les portait ainsi au-dessus des flots, elle s'exclama d'une voix tonitruante.
« Merci, merci. Béni sois-tu mille fois, sœur de la mer. Merci !»
Des larmes de joie argentées ruisselaient sur le visage sculpté de la vive nef et tombaient comme des joyaux dans l'eau. Tandis que les matelots effrayés faisaient des pieds et des mains pour rejoindre leurs compagnons sur le pont, Kénith, toujours assis à l'avant du canot, riait à gorge déployée. Des accents de folie résonnaient dans son hilarité. C'était bien le moins effrayant de son aspect à cet instant. Car, quand ses hommes tendirent les bras pour le hisser à bord, le grand serpent vert et or émergea de l'abîme déchaîné et le contempla fixement. Éta se sentit entraînée dans le tourbillon de ce regard doré. Elle plongea les yeux au fin fond des yeux de l'animal et faillit comprendre quelque chose. Alors le serpent poussa un ultime rugissement et disparut dans le gouffre subitement apaisé. Le canot se disloquait autour d'eux. Les bordées se déclinquaient tandis que la poupe s'affaissait. Vivacia laissa tomber les morceaux de bois désormais inutiles, berça Éta et Yéma. Elle les enleva pour les remettre aux mains impatientes qui les saisirent et les halèrent à bord.
« Doucement, doucement !»
cria-t-elle quand ils prirent Yéma.
« Apportez de l'eau douce, découpez ses habits et versez sur lui de l'eau et du vin. Alors... »
Vivacia poussa tout à coup un cri de stupéfaction. Elle joignit ses mains fumantes comme si elle priait.
« Je te connais, je te connais !»
Kénith tendit le bras vers Éta qui rampait sur le pont. Ses longs doigts fins s'arrondirent autour de sa joue.
Je vais m'en occuper, ma chérie,
lui dit-il. Cette même main qui avait commandé à la mer et au serpent effleurait sa peau. Éta retomba sur le pont et perdit connaissance. Kenneth avait suivi le conseil d'Éta, faute de mieux. Enveloppé lâche dans un drap, le garçon dormait à présent dans le lit du pirate. Sa respiration était sifflante. Il était affreux à voir. Son corps était si enflé qu'il en était presque difforme. La peau cloquée se soulevait. L'humeur visqueuse du serpent avait traversé ses vêtements et fondu ensemble épiderme et tissu. Quand on l'avait lavé, de grands lambeaux de peau s'étaient détachés, laissant des plaques de chair à vif. « C'était heureux qu'il soit inconscient, » songeait Kenneth, « sans quoi la douleur aurait été atroce. » Le pirate se leva avec raideur. Il était assis au pied du lit. Maintenant que la tempête s'était calmée, il avait le temps de réfléchir. Mais il ne le voulait pas. Il y avait des choses qu'il était préférable de ne pas examiner de trop près. Il ne demanderait pas à Vivacia ce qui l'avait poussé à abandonner son poste dans la baie trompeuse pour venir le chercher. Il ne s'interrogerait pas sur le comportement du serpent. Il ne tenterait pas à altérer la révérence servile que l'équipage lui témoignait depuis lors. On frappa à la porte et Éta entra. Ses yeux allèrent de Yémin à Kenneth.
« Je t'ai préparé un bain, »
dit-elle, puis elle s'interrompit. Elle le regarda comme si elle ne savait plus comment l'appeler. Il ne put s'empêcher de sourire.
« C'est bien, veille-le. Fais ce que tu crois bon pour le soulager. Donne-lui à boire dès qu'il bouge. Je peux prendre mon bain seul. »
« Je t'ai préparé des vêtements secs, »
parvint-elle à articuler.
« Et un repas chaud t'attend. Sorcor est à bord et demande à te voir. Je ne savais que lui dire. La vigie sur la Marietta a tout vu. Sorcor allait le faire fouetter pour en avoir menti. Je lui ai affirmé que le matelot n'avait pas menti. »
Elle resta à court de mots. Il la regarda. Elle avait passé une ample robe de laine. Ses cheveux humides lissés sur le crâne lui firent penser à une tête de phoque. Elle le dévisagea, ses mains brûlées étaient jointes, son souffle court et précipité.
« Et quoi d'autre ? »
demanda-t-il doucement.
Elle s'humecta les lèvres. « J'ai trouvé ça dans ma botte. Quand je me suis changée, je crois... ça doit venir de l'île des autres. »
Elle lui tendit les mains. Au creux de ses paumes, pas plus gros qu'un œuf de caille, se nichait un bébé. Le nourrisson était recroquevillé dans son sommeil, les yeux clos, des cils sur ses joues, ses minuscules genoux ronds ramassés contre sa poitrine. Quelle que soit la matière dont il était fait, le grain imitait à la perfection le rose frais d'une chair d'enfant. Une petite queue de serpent s'enroulait autour de son corps.
« Qu'est-ce que ça signifie ? »
demanda-t-elle d'une voix chevrotante. Kenneth effleura le bébé du bout du doigt. Sa peau tannée paraissait sombre sur celle de l'enfant.
« Je crois que nous le savons tous les deux, non ? »
déclara-t-il avec solennité.